Chapitre 26. Nos missions à l'étranger. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Romains 15, verset 21. Notre première mission dans un champ à l'extérieur des États-Unis a été ouverte en 1874, quand frère Andrews a été envoyé travailler en Suisse. Le champ d'Europe centrale. 8 pays étaient à ce moment-là inclus dans cette mission, à savoir la Suisse, la France, l'Italie, la Turquie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, un territoire de plus de 140 millions de personnes. Il peut être intéressant de noter, à ce point, les circonstances qui ont conduit notre peuple à entrer dans un territoire de mission aussi grand à un moment où la dénomination était numériquement faible. Frère Tchaïkovski. En 1865, Tchaïkovski, un prêtre catholique polonais converti, qui avait accepté la vérité présente, désira que notre peuple l'envoie en tant que missionnaire en Europe centrale. Comme cela était impossible à l'époque, il a présenté son cas aux adventistes du premier jour de Boston, dans le Massachusetts, qui le considéraient peut-être comme tout à fait dissocié de notre peuple. Quoi qu'il en soit, ils ont obtenu les moyens nécessaires et l'envoyèrent dans la mission qu'il désirait. Observateur du sabbat en Suisse. En 1866, il enseigna la vérité du sabbat et le message du troisième ange à Tramelan, en Suisse, effort qui résulta dans la création d'un groupe de personnes observant le sabbat. Peu après, il les quitta pour enseigner le message en Hongrie. Il ne dit rien au groupe de Tramelan concernant notre travail en Amérique, mais Albert Vuillemier, une personne du groupe, pouvait lire l'anglais. Il a, par hasard, vu une copie de la Review. Par ce moyen, une correspondance entre les deux pays commença. Frère Erzenberger envoyé en Amérique. En 1869, James Erzenberger de Tramelan a été envoyé en Amérique dans le but d'apprendre la langue anglaise et de se familiariser davantage avec les doctrines et les pratiques des adventistes du septième jour. Il est arrivé à Battle Creek le 18 juin et demeura un an et demi en Amérique. Il quitta New York pour son voyage de retour le 9 septembre 1870. En juin de la même année, Adhémar Vuillemier visita ce pays où il est resté environ 4 ans. À son retour chez lui, il était accompagné par frère Andrews. Ils sont arrivés à Neuchâtel le 16 octobre 1874. En 1875, frère Bourdeau et sa famille ont quitté l'Amérique pour la France, où le comité les envoyait travailler. Commencement d'un périodique en français. L'année suivante, en juillet 1876, on commença à Bâle, en Suisse, la publication d'un périodique en langue française, intitulé « Les signes des temps ». Le 13 mai 1882, 6 ans plus tard, frère Haskell prit le bateau à New York pour l'Europe. Pendant ce voyage missionnaire, il passa plus ou moins de temps en Suisse. Frère Whitney va à Bâle, mort de frère Andrews. Le 26 juillet 1883, frère Whitney et sa famille sont arrivés à Bâle, car il avait été nommé par le comité de la Conférence Générale pour prendre la direction de cette mission, au soulagement de frère Andrews, dont la santé se détériorait rapidement. Quelques mois plus tard, en octobre de cette année, ce dernier est décédé. Au début de sa vie, frère Andrews n'a pas eu les avantages du lycée ou des universités, mais il était bien éduqué, étant ce que le monde appelle un autodidacte. Grâce à son application dans l'étude, il maîtrisait le latin, le grec et l'hébreu, et plus tard, la langue française. Son acquisition de la langue française l'aida à ouvrir et à poursuivre les travaux dans la mission d'Europe centrale, où il travailla pendant les 6 dernières années de sa vie, écrivant et publiant les signes des temps, ainsi que prêchant dans cette langue. C'est pendant qu'il travaillait de la sorte que la mort l'a fauché. Le docteur Kellogg en Europe. Au printemps de 1883, le docteur Kellogg visita l'Europe dans l'intérêt de la recherche médicale. Il passa quelques jours dans chacune de nos missions et ses visites furent une source d'encouragement pour les travailleurs, en particulier ses conseils concernant l'œuvre à Bâle furent grandement appréciés par frère Andrews. Frère Butler visite l'Europe. Lors de la conférence générale tenue en octobre 1883, il a été recommandé de commencer, dès que possible, la publication d'un périodique en Angleterre. Comme résultat d'un autre vote pris lors de cette conférence, frères G.O. E. Butler Wilcox et Bourdeau sont allés aider le travail en Europe et en Angleterre. Frère Butler a atterri à Glasgow, en Écosse, le 27 février 1884. Un des buts de la visite de frère Butler dans les missions étrangères était d'apprendre, par l'observation personnelle, les difficultés dans la poursuite de l'œuvre à l'étranger et comment les surmonter. Il a passé lui aussi plus ou moins de temps à Bâle et dans le champ d'Europe centrale. Bourdeau travailla parmi le peuple français dans les vallées des Alpes, parmi les Vaudois, tandis que Wilcox, lié à l'œuvre d'imprimerie et d'édition en Angleterre, resta jusqu'à la fin de 1886. Maison de publication érigée à Bâle. En 1884, la maison d'édition, l'imprimerie polyglotte, ce qui signifie plusieurs langues, a été érigée à Bâle. En mars 1885, Kellogg a été autorisé par le comité de la Conférence générale à visiter Bâle et à acheter l'équipement nécessaire pour l'imprimerie. C'est ce qu'il fit, et c'est ainsi que fut établie dans l'ancienne ville de Bâle une imprimerie bien équipée, administrée par les adventistes du septième jour. Pendant la visite de frère Butler en Europe, un périodique allemand appelé le Herald der Wahrheit a été imprimé à l'imprimerie de Bâle. La même année, un journal roumain, Avarulu Présente, La Vérité Présente, a également été publié à ce bureau. Puis encore un autre en italien, appelé L'Ultimo Messaggio, Les Derniers Messages. Ces deux derniers périodiques étaient des revues trimestrielles de 16 pages. Lors de la conférence suisse, en octobre 1884, il a été déclaré qu'au cours de l'année, il avait été imprimé et distribué 146 000 copies de ces quatre journaux. Jusqu'en 1895, date à laquelle l'imprimerie fut transférée de Bâle, à cause d'une persécution, à Hambourg, en Allemagne, il y eut des livres et des tracts publiés dans 11 langues différentes, à savoir en français, en allemand, en italien, en roumain, en espagnol, en russe, en néerlandais, en tchèque, en hongrois, en turc, en arménien et en gréco-turc. Donc c'était, comme son nom l'indique, une institution imprimant dans de nombreuses langues. Madame White visite l'Europe. Le 3 septembre 1885, Madame White, son fils W.C. White et la famille sont arrivés à Bâle. Ils restèrent sur le vieux continent pendant un an et demi, visitant les missions situées dans le champ d'Europe centrale, où un service inestimable a été rendu aux différentes missions. Organisation de la Fédération Suisse. Le 10 septembre 1885, la Fédération Suisse a été organisée. Dans un rapport remis à l'époque, il était déclaré que la fédération était composée d'un ministre consacré, de 7 ministres licenciés, de 10 églises et de 224 membres. L'année précédente, ceux-ci avaient rendu une dîme de 1 645 $ et 11 centimes. De plus, 2 041 $ et 22 centimes avaient été donnés pour le travail. Frère Wagoner en Europe. Madame White retourna en Amérique en 1886 avec W.C. White et la famille. La même année, frère Wagoner fut invité à s'associer à la mission d'Europe centrale. Il passa plus de 2 ans dans ce champ, s'installant pendant cette période à Bâle. C'est dans cette ville que son décès est survenu, le 20 avril 1889, comme il a été dit précédemment. La santé chancelante de frère Whitney et sa mort, le 9 avril 1889, fut un autre coup grave porté à cette mission. Frère Robinson en Europe. Frère Robinson, qui travaillait en Angleterre, fut choisi pour succéder à frère Whitney. Il travailla efficacement dans ce district pendant environ 6 ans, lorsqu'il partit, à l'invitation de la Conférence générale, pour l'Inde en 1895. Son retrait exigea la nomination d'un autre directeur. Frère Holzer, directeur de ce champ. Frère Holzer fut l'homme sélectionné pour le poste, et en plus de cette fonction, il fut choisi comme gestionnaire de l'ensemble de la mission d'Europe centrale. Il travailla là inlassablement et efficacement jusqu'en 1901, lorsqu'il succomba, lui aussi, aux ravages de la maladie. Il est mort à Canyon City, dans le Colorado, le 11 septembre 1901. Malgré ces circonstances défavorables, la mission progressa et le travail avança, comme le montre un rapport fait à la Conférence générale en 1895, qui déclare que la Fédération d'Europe centrale est composée de 19 églises ayant 484 membres qui rendirent une dîme l'année précédente de 4 378,18 $. Ils avaient à cette date 4 ministres consacrés et 5 ministres licenciés. La mission russo-allemande. En 1870, Lindermann, pasteur d'une église près d'Elberfeld en Prusse, et 40 de ses membres commencèrent l'observation du sabbat du septième jour à la suite de leur étude de la Bible, ne sachant pas qu'un autre groupe de chrétiens dans le monde gardait ce jour-là comme le sabbat. La connaissance de ce groupe a été transmise à notre peuple d'une manière particulière. Un sabbat, un mendiant visita la mission de Bâle. La famille étudiait la leçon de l'école du sabbat avec leur Bible ouverte devant eux. La scène impressionna l'homme et l'amena à poser des questions. La compagnie d'Elberfeld. En apprenant qu'il n'était pas juif, mais chrétien, observant le sabbat du septième jour, il parla de cette compagnie d'Elberfeld. Frère Andrews crut sage de vérifier cette déclaration, par conséquent, il est allé en Prusse au début de 1875 en compagnie de frère Herzenberger, où ils trouvèrent le groupe mentionné. Frère Herzenberger est resté pendant un certain temps pour travailler dans cette partie de l'Allemagne et, le 8 janvier 1876, 8 personnes ont été baptisées à Elberfeld. C'était le premier baptême organisé par les adventistes du septième jour en Allemagne. La vérité prit pied en Russie dès 1882 à travers du matériel de lecture envoyé par des frères allemands d'Amérique à leurs amis des colonies allemandes de Russie. Frère Conradi en Europe. En 1885, frère Conradi quitta l'Amérique pour le champ d'Europe centrale pour travailler parmi les Allemands. Le 28 juin 1886, il quitta Bâle pour la Crimée, en Russie. Ici, en compagnie de frère Perk, il se rendit à Berdebula, où 2 sœurs furent baptisées et une église de 19 membres a été organisée. C'était la première église adventiste du septième jour en Russie. Frère Conradi et Perk emprisonnés. Immédiatement après cela, les frères Conradi et Perk ont été arrêtés pour enseigner contrairement à la foi orthodoxe et ont été emprisonnés pendant 5 semaines à Perekop. Après sa libération, par l'intervention du ministre des États-Unis, frère Conradi a visité la Russie orientale, puis retourna en Suisse. Les travaux sur la Volga, en Russie. C'est pendant cette même année que frère Loban a commencé à travailler en Russie, près de sa maison, située sur la Volga. Au cours de l'année 1880, frère Klein, du Kansas, est entré dans l'œuvre en Russie allemande et a ainsi suscité des ouvriers pour ce terrain dur et difficile, et bien que les croyants aient été soumis au bannissement et à l'emprisonnement, le Seigneur a remarquablement béni le travail. Succès des colporteurs en Allemagne. En 1880, des colporteurs commencèrent à travailler en Rhénanie-Prussienne, au Württemberg, à Baden et en Alsace. Les 8 ou 10 énergiques et fidèles travailleurs eurent tellement de succès qu'en un an, le nombre suivant de livres a été vendu. Life of Christ, Vie du Christ, 3000. From Eden to Eden, d'Éden en Éden, 2000. Et 12 000 brochures. À la suite de ce travail, à chaque endroit où les livres ont été vendus et lus, une ou plusieurs personnes acceptèrent la vérité. Ouverture de la mission à Hambourg. En mai 1889, le travail missionnaire a été commencé à Hambourg, en Allemagne, par frère Conradi, et en très peu de temps, une école de formation d'ouvriers a été mise en place. Au mois d'octobre suivant, une école du sabbat de 28 membres a été organisée. C'est pendant cette année-là que frère Haskell a visité la mission, qu'une église de 20 membres a été organisée et qu'un dépôt de livres fut établi. Frère Butcher était à cette époque engagé dans le travail allemand à Barmen. Un rapport a été fait, en 1890, à la conférence générale, indiquant que la mission russo-allemande incluait 9 églises organisées, avec un total de 422 membres, sans compter 75 observateurs du sabbat pas encore organisés. Le 7 avril de la même année, 12 personnes de plus ont été baptisées et s'unirent à l'église de Hambourg. En décembre, le nombre des membres de cette église était passé à 40. Le montant perçu des ventes de livres du dépôt de Hambourg, en Hollande, en Russie et dans diverses parties de l'Allemagne, était de 5 000 $. Succès en Europe. Lentement mais sûrement, le travail progressa dans la mission d'Europe centrale, comme on peut le voir dans un rapport remis à la Conférence générale en 1891. il y avait à l'époque 5 églises en Allemagne, d'un total de 140 membres, dont 64 étaient membres de l'église de Hambourg. La dîme rendue était de 1000 dollars. Les livres vendus sur les navires, par le navire missionnaire à Hambourg, s'élevaient à un montant de 500 dollars, alors que les ventes des colporteurs pour l'année, dans tout le champ, étaient de 6000 dollars. 150 personnes avaient accepté la vérité en Autriche, et il y avait 13 églises, d'un total de 400 membres en Russie. Bannissement de 5 rus observateurs du sabbat. Vers cette époque, 1891, 5 membres d'une église russe, y compris le dirigeant, ont été arrêtés pour enseigner des doctrines contraires à l'église établie et condamnés à 5 ans d'exil en Transcaucasie. Ils furent liés ensemble et durent marcher 800 km. Dans cette épreuve, leur foi les a soutenus et ils étaient heureux dans le Seigneur. Au cours de l'année, un dépliant a été préparé sous forme de lecture de la Bible en langue russe sur les souffrances du Christ, l'état des morts, quel est le jour de repos, pourquoi et peut-on vraiment le savoir? Au moment de la conférence générale de 1895, le nombre des membres en Allemagne s'élevait à 368 et la dîme de l'année précédente avait été de 2327,83 $. Plus d'observateurs du sabbat en Russie. En Russie, malgré l'immigration de plusieurs membres vers d'autres pays, leur nombre avait augmenté à 467, qui rendirent une dîme de 841,60 $. À partir de la déclaration faite par le secrétaire de la mission étrangère dans la lecture de la semaine de prière de 1896, nous apprenons que, dans le champ russo-allemand, au cours de l'année précédente, leur force numérique a presque doublé, leur nombre ayant augmenté de plus de 400 personnes. À Berlin, en Allemagne, 60 personnes étaient présentes au service hebdomadaire du sabbat. L'érection de la chapelle de la mission à Hambourg y avait donné de la force à l'œuvre. À Munich, en Bavière, un certain nombre attendait le baptême. Il y avait des croyants à Leipzig, Königsberg, Magdebourg, Posen, Stuttgart et dans d'autres grandes villes d'Allemagne. Il y avait aussi un groupe à Rotterdam, en Hollande. En Russie, les colporteurs avaient obtenu des permis du gouvernement. Des traductions de littérature avaient été réalisées en letton et en estonien. Le périodique allemand avait été transféré de Bâle à Hambourg et dans ce bureau, ils imprimaient la vérité en 14 langues. Baptême en Hongrie. Au cours de l'année, le premier baptême avait eu lieu en Hongrie et la première communion en Bohême. Un bateau de mission avait été établi à Galatz, en Roumanie, pour le Danube et la mer Noire. Colportage en Allemagne. Dans le magazine Home Missionary, missionnaire à domicile, de décembre 1895, frère Spies a dit du travail de colportage dans le champ allemand. Les responsables du travail de colportage, lorsqu'il fut commencé dans ce champ, n'ont pas cessé d'aller de l'avant, bien que certains des principaux éditeurs et des libraires de Leipzig les avaient assurés que vendre des livres par abonnement serait un échec. En août 1887, la première édition de Life of Christ, La vie du Christ, sortit en langue allemande. Vers l'époque où ce livre fut prêt pour la diffusion, un institut pour colporteurs se tenait à Bâle. Cela marquait le début du travail de colportage, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. La 7e édition de ce livre est maintenant sortie de presse en langue allemande. Depuis le 1er janvier 1895, 12 nouveaux colporteurs sont entrés dans le champ. En juin 1895, le rapport montrait une augmentation des ventes de 50%. À l'heure actuelle, un effort spécial est fait avec Herold der Wahrheit, notre périodique allemand. Certaines églises, pas très grandes, prennent de 50 à 200 exemplaires et les vendent. Et elles ont des expériences très agréables avec les acheteurs. Dans la review du 18 février 1896, frère Conradi disait « Nous terminons 1895 avec 1500 observateurs du sabbat dans le champ russo-allemand. » La mission scandinave. La mission pour la population scandinave a été ouverte par frère John Matson en 1887. Le 6 juin, il est arrivé à Veil, dans le Jylland, au Danemark. Lorsqu'il s'est rendu dans ce pays, il y avait quelques personnes qui avaient commencé à observer le sabbat en lisant des périodiques et des tracts qui leur avaient été envoyés par des amis d'Amérique. En retraçant la naissance de ce travail, nous apprenons qu'en 1854 personnes, qui étaient venus de Norvège pour vivre en Amérique, commencèrent à observer le sabbat du Seigneur. Elles résidaient à Auckland, dans le Wisconsin. Deux d'entre elles étaient le père et la mère de frère Olsen. En 1863, frère John Matson commença à observer le sabbat du septième jour. Il vivait à Poisipi, dans le Wisconsin. Au cours des 6 mois suivants, grâce à son travail, une quarantaine de Danois-Norvégiens acceptèrent les doctrines adventistes du septième jour. Le premier prédicateur actif qui s'unit à lui dans le ministère fut frère Hansson du Minnesota. Le premier livre publié en danois-norvégien. Au cours de l'année 1866, frère John Matson écrivit au gestionnaire du bureau de la Review pour savoir s'ils imprimeraient, pour les utiliser avec les Scandinaves, des brochures et des tracts dans leur langue. Il fut informé qu'il ne pouvait pas le faire par manque de fonds au bureau. Mais il y avait des personnes de sa nationalité dans le Wisconsin et le Minnesota qui étaient si désireuses d'avoir la vérité imprimée dans leur langue maternelle qu'elles collectèrent, bien qu'elles fussent de conditions modestes et moins de 50 personnes, $1000 en espèces et les lui confièrent à cette fin. Avec cet argent et un certain nombre de manuscrits préparés avec soin, frère Matson est venu à Battle Creek et a de nouveau fait une demande pour des livres imprimés. Alors qu'il était prêt à répondre aux objections formulées précédemment, ses désirs furent accordés, et le 18 mars 1867, il commença la lecture de son manuscrit, préparé pour son livre « Live au Dog, la vie et la mort » à frère Andrews et moi-même, qui étions alors membres de la commission de publication. En d'autres termes, il nous a dit en anglais ce que son manuscrit disait en danois-norvégien. Frère Matson devient imprimeur. À cette époque, il n'y avait pas d'imprimeur disponible pour mettre les caractères pour lui. C'est pourquoi il a supplié d'avoir le privilège d'apprendre à le faire lui-même. Il a continué à travailler jusqu'à ce qu'il ait environ 1 millier de pages de brochures et de tracts imprimés dans sa propre langue. Avec ce nouveau moyen de diffusion de la vérité parmi son peuple, il alla, avec un courage renouvelé, tenir des réunions dans divers états. À partir de cette date, l'œuvre avança assez rapidement parmi les Scandinaves. Le premier périodique étranger. L'œuvre parmi les Danois-Norvégiens prit une telle ampleur qu'une demande fut faite pour un mensuel grâce auquel les personnes de cette nationalité pourraient bénéficier d'enseignements et d'encouragements dans leur propre langue. Par conséquent, le 1er janvier 1872, un mensuel a été imprimé au bureau de la Review, en danois, de 24 pages, sous forme de magazine, et portant le nom « Advent Tidende », Nouvelle de la venue. L'année suivante, ce journal a été porté à 32 pages. C'était le premier périodique publié par les adventistes du septième jour en langue étrangère. En 1874, l'intérêt était tel parmi les croyants de langue suédoise qu'on commença à publier un mensuel de 16 pages dans cette langue, appelé « Svensk Harold ». Au moment où frère Matson commença à travailler pour la population scandinave, juin 1877, dans « Le Vieux Pays », 266 exemplaires des Tidende furent envoyés tous les mois d'Amérique au Danemark et 60 en Norvège. Par la lecture de ces périodiques, un certain nombre de personnes gardaient déjà le sabbat en Scandinavie. Grâce à ces efforts pendant un an au Danemark, des groupes de croyants furent suscités en plusieurs endroits. Une imprimerie en Norvège. Après cela, frère Matson alla en Norvège, où, le 7 juin 1879, il a organisé une église de 38 membres comme résultat de son travail dans Christiana. Frère Jasperson, d'Amérique, l'a rejoint dans le ministère vers cette époque. Pendant la même année, une société d'imprimerie a été créée en Norvège et une propriété fut achetée dans Christiana pour une imprimerie, des salles de rencontre pour les services d'église et des salles de séjour, pour un coût de $14 580. Pendant un certain temps, une petite édition d'un périodique, le Tidernes Tegn, fut émise chaque semaine du bureau de Christiana. Au début de l'automne 1880, frère Matson revint en Amérique pour obtenir de l'aide pour faire progresser l'œuvre scandinave. Il assista à la conférence générale de cette année et retourna en Europe en avril 1881, grandement encouragé. Peu de temps après son retour, une presse cylindrique a été achetée et placée dans le bureau de Christiana. Revue de santé en danois et en suédois. Ils ont immédiatement commencé la publication d'un journal de santé en danois, appelé le Sundhedsbladet. En 1883, il publia un journal similaire en suédois et un journal religieux appelé Sanningens Harold. En 1884, il possédait un équipement de bureau d'une valeur de 2 563 $. Au cours de cette année, il avait été imprimé et distribué 115 000 périodiques en tout, sans compter des milliers de tracts et quelques livres. Frère Askel en Scandinavie. Le travail dans les pays scandinaves a reçu beaucoup d'aide de la visite de frère Askel en 1882. Et en 1884, ils ont été aidés matériellement par les travaux des frères George Ier Butler Whitney Oyen et Olsen. Madame White aide grandement la Scandinavie. En 1885, Madame E.G. White et son fils W.C. White firent une visite en Scandinavie qui fut d'une valeur inestimable pour les travaux dans ce champ. Certains avaient l'idée que la dîme ne pouvait pas être payée par les pauvres du pays et qu'il était inutile de tenter de faire du colportage. Le témoignage donné par Madame White a été opportun et bien accueilli par les gens, comme le prouve la réponse donnée en ces termes « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous obéirons ». Au cours de cette visite, un changement complet a été effectué dans le champ scandinave, produit surtout par le travail inlassable de Madame White. Nouvel immeuble de bureau érigé en Norvège. En 1886, frères Olsen et N. Clausen visitèrent les pays scandinaves. Le second y resta pas mal de temps. En 1885, un nouveau bâtiment a été érigé dans Christiana, et pour l'année se terminant le 1er septembre 1886, le bureau tira la somme de 5 386 $, 68 centimes, de la vente de livres et de tracts uniquement, tandis que le montant reçu en abonnement au périodique était de 3 146 $, 3 centimes. 25 églises en Scandinavie. Un rapport présenté à la Conférence Générale de 1889 déclarait que dans le champ scandinave, il y avait 25 églises avec 926 membres qui avaient rendu une dîme de 2 548 $, 75. Il y avait également là 6 ministres consacrés, 4 ministres licenciés et 52 colporteurs. La vente de livres pour la Norvège et la Suède pendant un trimestre s'est établie à 2 161 $, 26. École à Christiana. Une école était en activité à cette époque à Christiana, avec 50 étudiants. En 1891, un institut biblique a été organisé à Christiana, par frères Olsen et Wagoner, avec 100 élèves présents. À cet institut, un enseignement complet du travail de colportage a été donné. 40 églises en Scandinavie. En 1895, 6 ans plus tard, en 1895, on remarque un rapport donné par frère Robinson, alors surintendant du district du champ étranger, qui montre clairement une croissance marquée de l'œuvre pendant cette période. Nous le citons ici. La Scandinavie a 40 églises et 1458 membres. La dîme de l'année fut de 5 585 $, 55. Il y a 15 ministres consacrés, 11 ministres licenciés, et les ventes de livres s'élèvent à 40 000 $ pour l'année. Cette somme importante est principalement attribuable aux efforts des colporteurs, et cela aussi dans un pays où en 1885, les libraires et même les ministres de notre foi affirmaient que la vente de livres de porte en porte ne pouvait pas être faite. Trois fédérations scandinavis. Dans le champ scandinave, il y a à l'heure actuelle trois fédérations qui furent organisées aux dates suivantes. Danemark, le 30 mai 1880. Suède, le 12 mars 1882. Norvège, le 10 juin 1887. Frère John Matheson, qui ouvrit le premier la mission scandinave, lança le travail avec succès et travailla si ardemment et se sacrifia pour la prospérité de ce peuple, a été frappé par cette maladie mortelle, la tuberculose, et mourut à El Monte, en Californie, le 30 mars 1896, âgé de 61 ans. La mission britannique. William Ings, originaire de Hampshire, en Angleterre, mais américain en esprit et par son éducation, ayant vécu aux États-Unis depuis son enfance, alla de Bâle, en Suisse, à Southampton, le 23 mai 1878. La première fois, son séjour fut bref, étant seulement de 2 semaines, puis il retourna sur le continent pour un court laps de temps. Peu après, cependant, il retourna à Southampton, où, après 4 mois de travail de maison en maison, distribuant des tracts et faisant le travail missionnaire qui se présentait, il a mentionné 10 personnes qui gardaient le sabbat. Le 30 décembre de cette année, mon épouse et moi-même sommes arrivés à Southampton, où nous unîmes nos efforts à ceux de frère Ings, en tenant des réunions au cours de l'hiver dans Shirley Hall et dans notre propre maison louée. Au cours de l'été 1879, nous avons organisé des réunions sous la tente à Southampton. À ce moment et à cet endroit, Mademoiselle Maud Sisley, maintenant Madame Boyd, s'associa à l'œuvre, donnant des lectures de la Bible et faisant du travail de porte à porte. Suite à cet effort, plusieurs personnes embrassèrent la vérité. Pendant l'hiver suivant, nous avons tenu des réunions dans une salle de la villa Ravenswood, le bâtiment dans lequel nous vivions et avions notre dépôt de livres. Rencontre sous la tente en Angleterre. Au cours de l'été 1880, frère Andrews, bien que de santé faible, vint de Suisse pour aider aux réunions sous la tente à Romsey, où d'autres personnes acceptèrent le message. Le 11 janvier 1880, une société de tracts a été organisée. Les membres ont été très intéressés par ce travail, et beaucoup de littérature fut distribuée. Notre premier baptême a eu lieu le 8 février 1880 et a été administré à 6 candidats. Jusqu'au 2 juillet 1881, 29 candidats avaient été immergés à Southampton. Augmentation du nombre d'ouvriers en Angleterre. Par un vote de la conférence générale tenue en automne 1881, frère John et sa femme, J.O.R. Drew, et mademoiselle Jenny Tyer se rendirent en Angleterre et s'associèrent à l'œuvre dans ce champ missionnaire. Pendant l'année 1882, frère Haskell a visité le champ et a passé un certain nombre de jours avec les travailleurs de la mission anglaise, offrant une aide précieuse par le biais de conseils et d'avis. En mars 1882, un supplément britannique de 2 pages au Signs of the Times commença à être imprimé et fut attaché aux milliers d'exemplaires des Signs qui étaient envoyés d'Amérique. Ils furent utilisés dans le travail missionnaire en Grande-Bretagne. Un rapport de l'œuvre du 1er octobre 1883 montre qu'il y avait à cette date 100 d'observateurs du sabbat. Les dîmes rendues depuis l'ouverture de la mission étaient de $2078.71. Travail missionnaire avec des bateaux. Grâce à la courtoisie de propriétaires de bateaux, frère Ings fut autorisé à envoyer des paquets de tracts et de documents gratuitement à 80 des principaux ports de la société Peninsular and Oriental Steamship Company, compagnie insulaire et orientale des bateaux à vapeur, en Afrique du Sud, dans les Antilles françaises et anglaises, en Amérique centrale et dans les Islas de la Bahia. C'est grâce à l'influence de la littérature ainsi envoyée qu'un intérêt a été suscité dans l'île de Demerara. Nous avons reçu cette information par des lettres venant de l'île. History of the Sabbath, histoire du sabbat. Placé dans les bibliothèques anglaises. Une copie du livre de frère Andrews, History of the Sabbath, histoire du sabbat, avait également été placée dans 60 bibliothèques publiques et dans des salles de lecture gratuites de toute la Grande-Bretagne. Et là, les livres racontent toujours l'histoire à ceux qui désirent la lire. En 1884, frère Butler visita l'Angleterre, accompagné par d'autres ouvriers de ce champ. frères Lane et Robert Andrews, partirent de Boston pour rejoindre la mission en Grande-Bretagne le 9 mai 1885. La visite de Madame White en Angleterre a été une source de force et d'encouragement pour les travailleurs. Madame White et son fils y passèrent quelques semaines avant de revenir en Amérique du champ européen. Commencement de la présente Truth, vérité présente. Au début de 1884, peu après l'arrivée de frère Butler en Angleterre, il a été décidé de commencer un bimensuel de 8 pages appelé Present Truth, vérité présente, à Grimsby avec Wilcox comme éditeur. Le même périodique est maintenant un hebdomadaire de 16 pages publié à Londres, en Angleterre, à 18 000 exemplaires. En 1889, frère Holzer rapporta que la mission britannique était composée de 8 églises, 200 observateurs du sabbat, dont 65 à Londres. La dîme pour l'année précédente était de 1244,58 $. Il y avait 2 ministres consacrés, 2 ministres licenciés, 2 bateaux missionnaires et 7 ouvriers bibliques. C'est vers cette époque que les frères William Hutchinson et Francis Hope entrèrent dans la mission anglaise. La Pacific Press à Londres. Au cours de l'année 1890, la Pacific Press Publishing Company, d'Oakland, en Californie, établit une succursale au 1882. Les ventes de livres à l'imprimerie, à prix de gros, représentèrent 9 556,89 $ pendant la première année. En février 1895, frère Robinson donna le rapport suivant. En Grande-Bretagne, il y a 11 églises, 363 membres, 5 ministres consacrés et 1 ministre licencié. La dîme de l'année passée était de 5 077,20 $, soit une moyenne de 13,98 $ par membre. La propriété du bureau d'imprimerie est maintenant administrée et gérée par l'International Tract Society, une société anglaise à responsabilité limitée. En décembre 1895, le secrétaire de la mission à l'étranger a rapporté un effectif de 560 membres pour la Grande-Bretagne. La dîme avait augmenté au cours de l'année de 1 000 $. À cette date, 8 groupes se réunissaient le jour du sabbat à différents endroits de Londres. Ainsi, l'œuvre dans ce champ de mission avança, parfois presque imperceptiblement. Les semences poussent moins rapidement dans certains types de sols que dans d'autres. Leur germination est plus lente, mais leur croissance est plus sûre et plus robuste. Ainsi en est-il de la vérité du troisième message dans ce royaume. Sa semence a été semée, elle a pris racine et elle a grandi lentement jusqu'à maintenant où elle a atteint des proportions relativement importantes. La mission australasienne. Le 10 mai 1885, les frères Haskell Corliss et sa famille, Israël et sa famille, William E. Arnold et Henry Scott quittèrent San Francisco pour ouvrir une mission dans le champ australien. 11 ans plus tôt, en 1874, lors d'une réunion tenue à Battle Creek, Madame White avait dit que beaucoup d'autres nations recevraient la vérité et qu'elle avait vu tourner les presses d'imprimerie et des livres et des périodiques imprimés dans différents pays. Lorsqu'on lui a demandé de préciser à quel pays elle faisait référence, elle répondit que l'Australie était le seul nom dont elle pouvait se souvenir. Le Bible-écho, l'écho biblique. Grâce aux travaux intenses et fructueux de frère Haskell et de son groupe, le message avança si rapidement que l'impression d'un périodique fut jugée nécessaire en Australie. En conséquence, des dispositions ont été prises pour la publication, et le 1er janvier 1886, un mensuel de 16 pages a été publié à Melbourne, appelé « Le Bible Echo and Signs of the Times », « L'écho biblique et les signes des temps ». Le premier numéro fut imprimé à 6 000 exemplaires, tandis que l'édition régulière n'avait que 3 000 exemplaires. Première église organisée en Australie. Le samedi 10 avril 1886, la première église adventiste du 7e jour a été organisée en Australie. Il y avait 18 personnes présentes qui signèrent la charte et 7 autres demandèrent à être admises par baptême. Elles furent baptisées le sabbat suivant, et chaque sabbat, pendant un certain nombre de semaines, des membres ont été ajoutés, jusqu'à ce que l'Église compte 55 membres. Jusqu'en mai 1886, l'ensemble de tous ceux qui s'inscrirent a été de 90 personnes. En plus, il y avait environ 35 personnes qui gardaient le sabbat dans d'autres endroits. Il y avait deux bonnes presses et un moteur dans l'imprimerie, le tout payé et administré par les adventistes du septième jour dans cette terre lointaine, à environ 13 000 km de notre grand bureau situé à Oakland, en Californie. En 1886, le message s'est propagé à la Nouvelle-Zélande. Un rapport du Champ australien déclare qu'il y avait 50 observateurs du sabbat en Nouvelle-Zélande. Le montant reçu de la vente de livres au bureau était de 700 $. En plus de cela, les colporteurs avaient vendu 400 exemplaires de la Tragédie des siècles en Nouvelle-Zélande et 1 000 000 d'exemplaires des Prophéties de Daniel en Australie. Immeuble de l'imprimerie australienne. D'un rapport donné le 19 juillet 1889, nous tirons les faits suivants. Un bâtiment pour une imprimerie a été achevé à Melbourne, comprenant une chapelle pour les services religieux. Entrée en Tasmanie. Une fédération a été organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le travail fut étendu à la Tasmanie par les frères Israël et Steed. Dans ce dernier lieu, 3 églises ont déjà été organisées, d'un total de 136 membres. En plus, il y a d'autres observateurs du sabbat disséminés et pas encore organisés. La dîme de l'année du champ australien a été de 9 371 $. Il y avait 15 colporteurs sur le terrain qui vendirent 19 500 $ de livres. Pendant son second voyage autour du monde, Frère Haskell a de nouveau visité l'Australie, a assisté à la conférence tenue en août 1889 et rendit de plusieurs manières une aide efficace qui fut très appréciée par ce groupe nouvellement constitué. Différents travailleurs d'Amérique ont de temps à autre visité l'Australie dans l'intérêt d'une grande cause, celle de l'édification et du renforcement de l'œuvre de Dieu. Madame White en Australie. À l'automne de 1891, Madame E.G. White, son fils, W.C. White, frère G.O. B. Starr et d'autres sont partis de Californie pour l'Australie, où ils arrivèrent en décembre, c'est-à-dire au milieu de l'été dans ce continent. Le témoignage de Madame White, malgré l'infirmité physique avec laquelle elle travailla pendant les 9 années de son séjour dans ce pays, aida grandement à mettre le travail en harmonie avec l'esprit et le contenu du message du troisième ange. Pendant le temps où ils furent en Australie, Frère Corliss s'associa de nouveau au travail là-bas, et Colcord et d'autres entrèrent dans le champ en tant que ministres, enseignants, etc. Frère Olsen en Australie. Au cours de l'administration de frère Olsen en tant que président de la Conférence Générale, il visita toutes nos principales institutions à travers le monde. Cela exigea qu'il fasse un long voyage, un voyage autour du monde. Il fit de son mieux pour s'informer auprès des diverses missions de leurs besoins et de leur état, pour qu'ils puissent ainsi être prêts à les servir de façon impartiale. C'est pendant ce voyage, en 1893, qu'il passa plusieurs semaines en Australie. Union australasienne. Pendant cette période, l'Union australasienne fut organisée, composée de la Fédération australienne, de celle de Nouvelle-Zélande et des champs de mission australiens. Cette union se réunit une fois tous les 2 ans et est dirigée au niveau des unions dans d'autres pays. Au cours de l'année 1893, les quelques colporteurs qui étaient dans ce champ vendirent une édition de 5 000 exemplaires de « Vers Jésus », et une deuxième édition de ce même livre a été imprimée. Pendant l'été 1894 à 1895, ils commandèrent 4 000 livres en souscription en 4 mois. Frère Prescott en Australie.
En 1895, Frère Prescott, le secrétaire d'éducation de la dénomination, passa un certain nombre de mois dans cette union, consacrant beaucoup de temps et de réflexion à cette branche de l'œuvre. Dans le même temps, il dirigea un institut éducatif qui leur fut d'un grand bénéfice. Le rapport de l'œuvre de l'année, fait à la Conférence Générale, a été présenté ainsi par W.C. White. L'Union australienne est composée de 17 églises ayant 1074 membres qui rendirent une dîme l'année précédente de 9 810 $. Cette conférence a 12 ministres consacrés, 2 ministres licenciés, 3 ouvriers bibliques et 50 colporteurs qui vendirent au cours de l'année 28 731 $ 11 de livres. Au cours de l'année, la colonie des Nouvelles-Galles du Sud, avec 6 églises et 321 membres, a été séparée de la Fédération australienne et nommée Fédération des Nouvelles-Galles du Sud. La mission d'Afrique du Sud. Lors de la conférence générale tenue à Battle Creek en 1886, la question a été considérée d'ouvrir une mission en Afrique du Sud. Comme une action était prise en faveur du projet, pour commencer en été 1887, un effort a été fait pour établir l'œuvre dans ce pays lointain, où quelques personnes, qui avaient déjà commencé à observer le sabbat, demandaient des ouvriers. Frères Boyd et Robinson en Afrique du Sud. À cette fin, le 11 mai, frère Boyd et sa famille, frère Robinson et sa femme, et d'autres travailleurs, quittèrent la ville de New York pour l'Afrique, en passant par Liverpool et Londres. 3 ans plus tard, à la conférence générale, B. Wessels déclara que lorsque ces ouvriers sont arrivés en Afrique, il y avait là environ 40 personnes qui observaient déjà le sabbat du 4e commandement après avoir lu des publications sur le sujet et étudié les Écritures. Les frères Robinson et Boyd commencèrent le travail de mission dans la ville du Cap, et de là, ils l'étendirent au nord-est, à près de 1300 km, à Kimberley, dans les champs de diamants. Jusqu'en 1889, il n'y avait que 2 ministres consacrés, un ministre licencié, 4 églises et 80 membres. Ils rendaient une dîme de $2 798.36. Au cours de cette année, frère Ira G. Hankins, d'Amérique, travailla au Cap avec de bons résultats, et monsieur et madame Druillard vinrent du Nebraska pour s'associer à l'œuvre à cet endroit, et pour partager les travaux et les privations qui sont le lot de ceux qui sont appelés à faire une œuvre de pionnier dans un champ nouveau. Le travail de madame Druillard se limitait principalement au dépôt de livres, les affaires de ce département étant laissées à sa gestion, tandis que monsieur Druillard travaillait dans la cause missionnaire générale. Au cours de l'année, il vendit des livres pour un montant de $750 sur les navires faisant escale dans ce port. Frère Haskell en Afrique. C'est en août de cette même année que frère Haskell est arrivé au Cap. Son séjour de 5 mois fut bien rempli de visites et de travail avec les différents groupes d'Afrique du Sud. Grâce à cette visite, la cause fut renforcée et développée, et son propre cœur fut encouragé en voyant les fruits de son travail. Un intérêt pour le travail d'éducation a été suscité, de sorte que 12 étudiants vinrent d'Afrique en Amérique pour fréquenter nos écoles d'église. Dans l'intervalle, le colportage a reçu une attention particulière. Un institut pour encourager ce travail s'est tenu au Cap, dirigé par Morrison, qui redonna vie et énergie à cette branche importante du message. Immédiatement après la fin de cet institut, 13 colporteurs vendirent et livrèrent $5 621.28 de livres en 6 mois. En fait, les commandes étaient si nombreuses qu'elles ont complètement débordé le bureau de Londres, car les livres ne pouvaient pas être préparés assez rapidement pour répondre à la demande. Au cours de l'année 1892, frère Robinson s'associa à l'œuvre en Afrique du Sud. À cette époque, le travail avait tellement progressé qu'un nouveau dépôt dut prendre la place de l'ancien. Par conséquent, un nouveau bâtiment suffisamment grand a été construit pour fournir assez de place pour les réunions de l'église. Construction d'un collège en Afrique. Ainsi, l'œuvre a continué de progresser pas à pas, jusqu'à ce qu'un bâtiment soit érigé au coût de $35 000 à Claremont, une banlieue du Cap. La seule aide demandée aux frères américains était d'envoyer une force d'enseignants qualifiés pour enseigner un cours de collège, et ils veilleraient eux-mêmes à la dépense. Cette demande étant satisfaite, l'école a ouvert le 1er février 1893. La Fédération d'Afrique du Sud. La Fédération d'Afrique du Sud a été organisée en 1892. Lors de la Conférence générale de 1893, elle a été votée comme membre de la Conférence générale. Elle avait alors 5 églises, 138 membres, qui avaient rendu une dîme l'année précédente de $34 077.32. Au cours de cette conférence, la Fédération d'Afrique du Sud était représentée par Peter Wessels, qui a généreusement fait don à la conférence générale de 16 000 dollars, ce qui est supérieur à ce que la conférence générale avait engagé pour commencer l'œuvre en Afrique du Sud. En plus de ce don, lui et un de ses frères firent don de 40 000 dollars pour commencer le travail de dispensaire gratuit dans la ville de Chicago. Lors de la conférence générale de 1895, le secrétaire de la mission étrangère a déclaré concernant le champ africain. La Fédération d'Afrique du Sud a été organisée depuis seulement 2 ans, mais pendant cette période, la conférence générale a envoyé 12 travailleurs dans ce champ. 2 d'entre eux sont allés travailler à l'intérieur comme missionnaires autonomes, alors que les autres sont entrés dans différents ministères de l'œuvre. Cette fédération a une école florissante, un orphelinat et un centre de santé en train d'être construit. Les statistiques montrent qu'elle a 184 membres. Périodique publié en Afrique du Sud. Au cours des derniers mois, le sujet de la liberté religieuse en Afrique du Sud a amené notre peuple à publier 2 périodiques, l'un en hollandais, appelé De Wachter, la Sentinelle, l'autre en anglais, appelé The South African Sentinel and Gospel Echo, la Sentinelle d'Afrique du Sud et l'Écho de l'Évangile. Ce dernier tire à 4000 exemplaires. Union sud-africaine. En janvier 1903, l'Union d'Afrique du Sud a été organisée, composée des fédérations de la colonie du Cap et du Natal Transvaal et des missions du Matabeleland et du Basutoland sous le contrôle de l'Union. L'Union est composée de 15 églises organisées avec 595 membres plus 9 groupes non organisés d'un total de 90 membres et 30 observateurs du sabbat isolés, soit un total de 715 membres qui rendirent 7850 dollars de dîmes. Il y avait 39 ouvriers, dont 21 étaient sur la liste des employés des différentes fédérations. Le champ polynésien. En 1876, frère James White et l'auteur envoyèrent un volume de Signs of the Times et des tracts, accompagnés d'une lettre, à l'île de Pitcairn. Ces documents furent placés sur un bateau allant à New York en passant par le Cap Horn. On nous a assuré que le navire s'arrêterait à Pitcairn et que le colis serait livré. Nous ne connaissions personne sur l'île et ne savions rien de l'île elle-même, si ce n'est sa réputation d'être habitée par un peuple pieux, consacré. Les documents ont été envoyés à l'aventure. Visite à Pitcairn. Nous n'avons rien entendu de ces gens, ni de notre littérature, jusqu'à ce que M. John I. Tay rende visite à l'île en 1886, 10 ans plus tard, lorsque nous avons appris qu'après avoir lu le volume des Signs et les Tracts, l'ensemble de l'île, à un moment donné, décida presque de changer leur jour de culte du premier jour de la semaine au 7e jour et de garder le sabbat du Seigneur. Cependant, ils ne le firent pas avant la visite de M. Tay. Il avait été pendant longtemps profondément impressionné de visiter l'île, mais ne connaissait rien des gens personnellement, ni de leur intérêt déjà allumé pour la vérité. Après son retour en Amérique, il a plaidé avec ferveur pour la construction d'un navire avec lequel des missionnaires pourraient voyager d'île en île dans l'océan Pacifique. Avec cette pensée à l'esprit, il est venu à la conférence générale tenue en 1889, et là, il plaida la cause des îles polynésiennes. La conférence, voyant l'utilité de l'entreprise, vota de collecter des offrandes pour un montant de 12 000 dollars pour construire ou acheter un bateau pour travailler parmi les îles de l'océan Pacifique. Construction du Pitcairn. En harmonie avec cette action, le navire Pitcairn a été construit pendant l'été 1890 près de Benicia, à une 50aine de kilomètres d'Oakland, en Californie, au coût de 12 035 dollars 22. Cette somme a été collectée en 9 mois et donnée par les écoles du sabbat pour cette seule fin, et jamais un cadeau n'a été fait plus gaiement et avec tant d'enthousiasme. Le navire a été inauguré à Oakland, en Californie, le 25 septembre 1890. Environ 1500 personnes étaient rassemblées sur le navire et sur le quai pour assister à la cérémonie. La première croisière du Pitcairn. Le navire est parti de San Francisco pour faire sa première croisière pour son lointain champ du travail le 20 octobre. Les missionnaires à bord étaient frère Gates et son épouse, frère Reed et sa femme, John I. Tay et sa femme, et un équipage missionnaire sous la direction du capitaine Marsh. Ce navire est d'abord allé à l'île de Pitcairn, 6400 km au sud de San Francisco, où il est arrivé le 25 novembre. Lorsque le navire a quitté l'île, le 17 décembre, 82 adultes avaient reçu le baptême et avaient été organisés en église adventiste du 7e jour. Le navire a alors fait son chemin vers les groupes des îles de la Société, Hervé, Samoa, Tonga et Fidji, laissant des livres religieux et des tracts sur la santé et la tempérance chez les peuples anglophones. Pendant 8 mois, jusqu'en septembre 1891, les missionnaires vendirent des livres pour un montant de 1900 dollars, en plus de la distribution d'une grande quantité de littérature gratuite. Les missionnaires avaient les postes suivants. Frère Reed à Tahiti, frère Gates est resté à Pitcairn pour finir le travail déjà commencé là, tandis que M. Tay a choisi de travailler sur l'île Fidji. Dans la review du 14 avril 1904, frère Fulton dit du travail sur l'île Fidji « Il y a maintenant plus de 150 observateurs du sabbat dans ce champ de mission. » Des îles Fidji, le navire a navigué jusqu'à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour les réparations et les améliorations nécessaires, et également pour s'approvisionner en livres. La mort de missionnaire. Après une absence d'un an, 11 mois et 18 jours, le Pitcairn est retourné à San Francisco, où il est arrivé le 9 octobre 1892. Pendant cette période, le capitaine Marsh mourut et fut enterré en Nouvelle-Zélande. Monsieur Tay fut frappé d'une pneumonie, de laquelle il ne s'est jamais remis. Il est mort paisiblement et a été enterré dans le pays lointain des Fidji, et donc deux vies précieuses furent données sitôt à la mission polynésienne. Les missionnaires situés sur l'île de Tahiti, à Papeete, ont eu de quoi se réjouir en voyant, presque immédiatement, les fruits de leur travail. Ils ont été en mesure de nous envoyer, à cette date, le rapport encourageant de 40 personnes converties et organisées en église adventiste du 7e jour. Le deuxième voyage du Pitcairn. Le navire quitta San Francisco pour son deuxième voyage le 17 janvier 1893, avec les missionnaires suivants. Caddy et sa femme, Cole et sa femme, Chapman et son épouse, et le docteur Kellogg. Mademoiselle Hattie André, d'Ohio, les a accompagnés en tant qu'enseignante pour l'île de Pitcairn. Pendant l'automne 1893, Monsieur Caddy a ouvert une école à Raiatea, dans les îles de la Société, avec 60 étudiants. À la fin du premier semestre, leur nombre était passé à 105. À l'ouverture du deuxième semestre, il y avait 120 élèves présents. Le troisième voyage du Pitcairn. La troisième croisière du navire a été faite en 1893 à 94. Les missionnaires pour ce voyage étaient Wellman et son épouse et Lillian White, tous du Michigan qui étaient en route pour Raiatea, où ils devaient aider frère Caddy dans son travail. Monsieur Stringer et son épouse sont partis en tant que missionnaires autonomes. Ils se sont arrêtés à Rurutu. Le docteur Caldwell et son épouse étaient affectés à Rarotonga, où la population observait le samedi pour le dimanche, tandis que frère Buckner et son épouse, de Californie, ont été laissés à Pitcairn. Au cours de son séjour avec ce peuple, beaucoup d'industries nouvelles ont été introduites, qui se sont révélées bénéfiques pour les habitants à bien des égards. Tout d'abord, on a construit un moulin à vent pour moudre le maïs qui est maintenant cultivé sur l'île, et cette énergie éolienne fait tourner d'autres petites machines, ce qui a conduit à d'autres industries jusqu'ici inconnues des insulaires. Le quatrième voyage du Pitcairn. Le 15 décembre 1895, le secrétaire de la mission des affaires étrangères a dit « Le Pitcairn est maintenant au port revenu de sa quatrième croisière. L'œuvre a été plantée dans 9 groupes d'îles différents, et les ouvriers suivants y sont employés. » Dans l'île de Pitcairn, les enseignants Butz et sa femme et Hattie André. Certains missionnaires autonomes, venus d'Australie, sont engagés dans le travail sur l'île de Norfolk. Sur les îles de la Société, ministre Caddy, missionnaires médicaux, Monsieur et Madame Prickett. À Rarotonga, missionnaires médicaux, le docteur Caldwell et sa femme, Mesdemoiselles Lillian White et Maud Young. enseignant Wellman et son épouse, frère Rice et sa femme. Dans les îles Fidji, frère Cole et sa femme. Sur Tonga, frère E. Hilliard et sa femme. Sur Rurutu, monsieur et madame Stringer, des missionnaires autonomes. À Hawaï, frère Gates et son épouse, enseignant Brand et sa femme. Dans les îles Samoa, le docteur Brocht et sa femme. Frère Owen, son fils et sa fille, missionnaires autonomes. Le Pitcairn a vendu et distribué gratuitement une grande quantité de littérature au cours de ses 4 voyages. En conséquence, des observateurs du sabbat ont surgi dans de nombreux endroits. Des églises ont été organisées sur l'île de Pitcairn, sur Norfolk et à Tahiti. Le Pitcairn vendu. Comme il y a maintenant des facilités pour atteindre le champ polynésien, qui n'existait pas lorsque le navire a été construit, le bateau a été vendu et d'autres moyens sont utilisés pour poursuivre le travail. Frère Gates est maintenant le directeur du champ polynésien et rapporte des progrès dans les différents groupes. Les Antilles. Pendant l'hiver 1889, M. William Arnold d'Amérique a commencé à travailler comme colporteur aux Antilles. Dans son travail, il a réussi à obtenir les noms et adresses de 1200 personnes qui ont été envoyées à l'International Tract Society pour son utilisation dans l'œuvre missionnaire. Par correspondance et l'envoi de littérature à ces adresses, un intérêt en faveur de la vérité a été éveillé et c'est ainsi que la voie s'ouvrit pour la promulgation de l'Évangile à travers la prédication de la parole de Dieu. En réponse à l'appel lancé pour le travail ministériel, frère Ball, en novembre 1890, est allé travailler à Barbade et dans d'autres endroits. Plusieurs personnes ont accepté la vérité comme résultat de ses efforts. En 1892, M. Patterson, de Californie, a colporté dans les îles avec le livre « Bible Readings », lecture biblique, avec un bon succès. En 1893, Newman a quitté la Floride pour la Jamaïque, pour prendre la direction du colportage pendant l'absence de M. Arnold. M. Evans et M. Hackett se sont également rendus aux Antilles la même année pour s'engager dans cette branche de l'œuvre. Au mois de mai, frère Eismer et sa femme entrèrent dans ce champ pour travailler selon que la voie s'ouvrirait. Peu de temps après, M. Arnold est revenu, cette fois pour colporter avec des livres traitant du sujet de la santé. Jusqu'en juillet 1895, des livres de ce caractère avaient été vendus en Jamaïque seul pour un montant de 8 200 $, tandis que la vente de livres religieux s'est élevée à 7 654 $, soit un total de 15 854 $. Cette distribution d'une si grande quantité de littérature aida beaucoup dans l'établissement à Kingston d'une église bien organisée de 75 membres, et dans l'ouverture de voies pour le travail ministériel dans d'autres parties de l'île. Île de la Trinité. Le travail a été introduit ici d'une manière semblable à celle de la Jamaïque. En 1889, Grant et sa femme ont été invités à visiter l'île dans le but d'y introduire notre littérature confessionnelle et, sur invitation, frère Flowers et son épouse les suivirent bientôt pour travailler alors que la voie s'ouvrait. Ils ont eu un bon succès, jusqu'à ce que frère Flowers soit frappé de la fièvre qui causa sa mort, le 29 juin 1894. Frère Webster fut choisi comme son successeur, et il quitta New York en août 1895. En 1896, les ouvriers dans les Antilles étaient, en Jamaïque, frères Eismer et Eastman, et un certain nombre de colporteurs étaient dans les Bahamas. Dans les Petites Antilles étaient frère E. Van Deusen et sa femme, avec Parmly et son épouse comme ouvriers bibliques, M. Bean et M. Hackett comme colporteurs. Sur l'île de la Trinité, frère Webster et sa femme, avec Mademoiselle Stella Colvin comme missionnaire médical. Les résultats, 110 observateurs du sabbat en Jamaïque et 50 sur la Trinité, centrés autour de Couva. Une seule église sur Barbade et une compagnie à Antigua, dans les Petites Antilles. L'Amérique centrale. Frère Hutchins et son épouse ont quitté les États-Unis pour les Islas de la Bahia le 16 novembre 1891. À cette époque, il y avait, principalement dans Roatan, environ 20 personnes qui observaient le sabbat du quatrième commandement selon le décalogue, leur attention étant d'abord attirée sur cette vérité par de la littérature envoyée par la poste. 3 ans plus tard, en 1894, Miller et son épouse quittèrent la Californie pour Bonaca, où ils s'associèrent au travail éducatif comme enseignants dans une école qui a été ouverte le 4 juillet 1894 dans un bâtiment école érigé par des adventistes du septième jour. La présence au cours du premier semestre était en moyenne de 34 étudiants. En 1895, l'école a été déclarée autonome et le nombre d'élèves était passé à 45. Lors de la conférence générale, tenue en 1895, Frère Hutchins a rapporté qu'une centaine de personnes sur les îles obéissaient au message, et il a également déclaré qu'il y avait 2 maisons de rencontre construites appartenant aux adventistes du septième jour. En raison du manque de terre, car très précieuse pour la culture, l'un de ces lieux de culte a été construit sur l'eau. Ces 2 bâtiments et la maison-école furent l'objet d'une cession à la conférence générale. La valeur de la propriété de la Fédération sur l'île a été estimée à 1789,60 $. La quantité de livres vendus jusqu'en 1895 fut de 2243 $. Petit bateau pour l'Amérique centrale. L'attention de la conférence ayant été dirigée vers la commodité et les avantages d'un petit bateau pour que des missionnaires puissent voyager d'une île à l'autre, la construction d'un tel bateau a été votée pour le travail parmi les Islas de la Bahia pour un coût n'excédant pas 3 000 $. En 1896, il n'y avait que 4 ouvriers en Amérique centrale, frère Hutchins et sa femme, et frère Moreau et son épouse en Honduras espagnol. À Belize, la capitale du Honduras britannique, il y avait un groupe de croyants qui gardaient maintenant le septième jour selon le quatrième commandement. La plus grande partie du travail dans ce champ a été réalisée dans les îles de la mer des Caraïbes. Ici, plusieurs milliers de dollars de livres avaient été vendus et 60 personnes se réjouissaient de la vérité du message du troisième ange. La mort de frère Hutchins. Frère Hutchins travailla fidèlement et ardemment pendant environ 12 ans en Amérique centrale. Finalement, son endurance a été vaincue et il succomba à la maladie. Il repose maintenant en paix, attendant l'appel du maître qui réveillera les fidèles. L'Amérique du Sud. C'est grâce à la page imprimée que les vues des adventistes du septième jour ont été introduites pour la première fois en Amérique du Sud. En octobre 1891, messieurs Snyder, Stoffer et Nolin ont commencé à travailler comme colporteurs en Argentine. En 1893, par vote de la conférence générale, frère Westphal, de l'Illinois, un ministre allemand, s'associa à l'œuvre dans ce champ de mission, et en 1894, Frank Kelley, de Californie, est allé aux États-Unis de Colombie comme missionnaire autonome. Quelques mois plus tard, ils furent suivis par d'autres ouvriers, et c'était donc le début de cette nouvelle mission. En 1896, le rapport suivant a été donné concernant le travail dans ce champ. Le Chili a un ministre consacré, frère Babert, qui est arrivé le 19 octobre 1895, et 2 colporteurs, Richard et Davis. L'Argentine a aussi 2 ministres consacrés, Westphal et Jean Vuillemier, et 2 colporteurs, O. Oppegar et Nolin. De plus, il y a 4 ouvriers bibliques, Lucy Post, Monsieur et Madame Snyder et John McCarthy. Le Brésil compte 2 ministres consacrés, frères Thurston et Graff, et 3 colporteurs, Stoffer et Berger. La Guyane britannique compte 2 ministres consacrés, frères Kniland et frères Peggy Dings, et 2 missionnaires médicaux, docteur Fairquois et son épouse. En 1896, il y eut 1 millier de $ de livres vendus au Chili, et 30 personnes avaient accepté le sabbat et les vérités apparentées en lisant la littérature achetée aux colporteurs. Au Brésil et en Argentine, des livres avaient été vendus pour la somme de 10 000 $, et ce qui était encore mieux, il y avait une 100aine d'observateurs du sabbat. une église et 5 écoles du sabbat avaient été organisées. En Argentine, il y avait 3 églises organisées, à Buenos Aires, Crespo et San Cristobal, respectivement. Il y avait également une église organisée en Guyane britannique et 50 observateurs du sabbat, soit un total de 150 adventistes du 7e jour en Amérique du Sud. La Southern Missionary Society, société missionnaire du Sud. Strictement parlant, cette société ne peut pas être appelée étrangère. Cependant, elle évangélise un peuple étranger, les Africains, sur notre terre. Le mérite est, en grande partie, dû aux efforts persévérants de frère G. E. White, sous la bénédiction de Dieu, pour les résultats déjà obtenus. Pendant l'hiver 1893, quand j'étais président de la Fédération de l'Illinois, frère White est venu me voir, le cœur très touché pour les gens de couleur des États du Sud. Comme il passait quelques semaines à Chicago, il demanda le privilège de travailler pour les gens de couleur vivant dans la ville. La demande fut bien volontiers accordée, et c'est là que commença vraiment son travail pour ce malheureux peuple. Le bateau à vapeur missionnaire de frère White. À partir de ce moment, il pria et fit des plans pour le champ du Sud. Comme il étudiait la situation, ses plans arrivèrent à maturité, ce qui aboutit à la construction d'un bateau à vapeur près du lac Michigan, appelé le Morning Star. Avec cette bételle flottante, il est allé à Chicago, et de là, descendant les fleuves de l'Illinois et du Mississippi, il parvint à Vicksburg, dans le Mississippi, le 10 janvier 1895. Ici, avec quelques associés, il commença son travail en terre vierge. Travaux de la Société missionnaire du Sud. Nous citons maintenant un rapport fait par frère White à la Conférence générale le 9 avril 1903, qui donne les résultats du travail et montre l'état de l'œuvre missionnaire dans le Sud à cette date. Notre société a mis en place et opère maintenant 5 écoles dans le Mississippi. Ces écoles sont situées à Vicksburg, Yazoo City, Columbus et Jackson. Nos ouvriers ont également entrepris des efforts à Nashville, Memphis et Edgefield Junction, dans le Tennessee, et à Louisville et Bowling Green, au Kentucky. Travailleurs dans le Sud. À l'heure actuelle, il y a 27 travailleurs dans différents départements de la société. 5 ministres consacrés ont été envoyés dans l'œuvre de la Southern Missionary Society. 13 maîtres d'école ont été équipés de différentes façons pour leur travail. Un jeune homme est éduqué par la société pour devenir médecin au Mehari Medical College de Nashville et un autre est aidé dans ses cours à la même école. Quelques bons ouvriers bibliques ont été formés. Certains enseignants sont aussi en train de devenir des travailleurs chevronnés dans ce département. Le bateau à vapeur Morning Star. Le Morning Star est ma propriété personnelle, construit avec mon propre argent. De plus, les dépenses courantes de ce bateau ont toutes été payées par mon revenu personnel. Je dirais aussi que les frais de subsistance sur le bateau ont toujours été payés par moi-même. La société a souvent compté de 10 à 18 mains. Même les salaires de tous les travailleurs employés par la société pendant des années n'ont pas été pris sur les dons, mais de mon revenu personnel. Comment l'argent est venu pour la mission du Sud? La question peut être posée, d'où vient cet argent? Le Seigneur nous l'a donné. Des petits livres ont été publiés. D'abord, Gospel Primer, le premier évangile, que nous voulions utiliser originellement dans l'enseignement des gens de couleur. On s'attendait à vendre quelques milliers de copies, mais à notre grand étonnement, il a atteint près d'1 million d'exemplaires. Mère, Madame E.G. White, nous a aidés avec le livre « Christ Our Savior », « Le Christ notre Sauveur », qui a été vendu à 300 000 ou 400 000 exemplaires. 200 000 ou 300 000 exemplaires des « Best Stories », « Meilleures Histoires » ont été vendus. On estime qu'un nombre suffisant du « Coming King », « Le Roi qui vient », a été distribué pour faire une colonne de 6 km de haut. Avec les droits d'auteur de ces livres, en plus de beaucoup d'autres entreprises et lignes de travail, nous avons construit le Morning Star. Dans de nombreux pays, le Mexique. Notre travail a débuté dans ce pays en 1894, par l'établissement d'une mission médicale à Guadalajara. en 1896, la force de travail était la suivante. Frère Jones et sa femme, qui étaient à la tête de la mission. Les enseignants étaient Ora A. Osborne, Madame A. Cooper, Kate Ross et un assistant local. Les missionnaires médicaux étaient le docteur Neil, A. Cooper, Madame Rice, Madame Bartlett et Madame Rachel Flowers. 40 patients par jour étaient clients de la mission et 40 étudiants fréquentaient l'école de la mission. Un nouveau centre de santé était en construction à cette date, à un coût de $12,000. L'Afrique centrale. En 1893, la cause du message du troisième ange avait tellement progressé que la conférence générale estima qu'il était justifié de recommander qu'une mission soit établie en Afrique centrale. Il a donc été voté que dès que possible, une mission soit ouverte dans le Matabeleland. En harmonie avec cette action, un groupe d'adventistes du septième jour, en 1894, entra dans ce pays et choisit une ferme de 5000 hectares. Lors de la conférence de 1895, frère Tripp et son épouse Anderson et son épouse, et le docteur Carmichael, ont été choisis comme missionnaires pour ce champ lointain. Ils ont immédiatement commencé les préparatifs pour ce long voyage et, après un voyage prospère, ils ont atteint leur destination le 26 juillet 1895. La Côte d'Or, ancien Ghana. Pendant un certain nombre d'années, les adventistes du septième jour avaient reçu l'appel à l'aide du Macédonien de la côte ouest de l'Afrique. Un intérêt avait été éveillé pour la vérité par la lecture de publications adventistes, mais ce n'est que vers 1894 que de l'aide fut envoyée. Puis, frère Sanford et M. Rudolph ont été invités par le comité de la conférence générale à commencer le travail qui avait été si longtemps en attente. Ils sont entrés dans le champ avec zèle et courage. Peu de temps après, cependant, frère Sanford fut frappé de la fièvre, qui est si répandue là-bas que le pays s'appelle « la tombe de l'homme blanc ». Il a eu 3 attaques, puis, pour survivre, il fut obligé de revenir en Amérique. D'autres ont été envoyés sur la côte ouest, parmi lesquels frère Hale, George F. Kerr et sa femme, et Riggs. Ce dernier, cependant, fut si affaibli par la maladie qu'on désespéra pour sa vie, et il alla en Angleterre dans l'espoir de bénéficier d'un changement de climat. Mais ses amis et lui-même furent désappointés, car sa santé se détériora progressivement, et finalement il mourut, et là il fut enterré. Il attend, lui aussi, la venue de celui qui donne la vie. L'Inde. Le 12 janvier 1890, frère Haskell s'embarqua de Durban, port du sud-est de l'Afrique, pour aller à Calcutta, en Inde et en Chine et au Japon. Avant cela, Percy T. Magan, son secrétaire, s'était joint à lui. Le but de ce voyage en Inde était de prospecter pour obtenir des informations qui leur permettraient de donner des conseils et des opinions lorsque les opérations de missionnaires adventistes du septième jour actifs commenceraient dans ce champ. Avec la pensée d'établir une mission en Inde, la conférence générale de 1893 recommanda que William Lenker aille dans ce pays comme colporteur. En conformité avec cette recommandation, il s'est rendu en Inde et a introduit la littérature des adventistes du septième jour. À une date ultérieure, M. Lenker a rapporté que lui et 4 autres personnes avaient, jusqu'à 1896, colporté dans diverses régions de l'Inde et avaient vendu $10,000 de publications. Pour montrer l'intérêt créé par les livres vendus, il a aussi mentionné le fait suivant. Tandis qu'il colportait dans les environs de Madras, sur la côte ouest de l'Inde, un prédicateur local marcha 100 km pour acheter une copie de Thoughts on Daniel under the Revelation, Pensées sur Daniel et l'Apocalypse. Georgia Burrus en Inde. En 1895, Mademoiselle Georgia Burrus quitta la Californie pour l'Inde. En arrivant là-bas, elle commença aussitôt l'étude de la langue bengali et entreprit bientôt le travail missionnaire. Jusqu'en 1896, plusieurs personnes avaient commencé à observer le sabbat du Seigneur par association avec nos travailleurs. Les ouvriers sur le terrain en 1896 étaient frère Robinson et sa femme. Mademoiselle May Taylor et Mademoiselle Georgia Burrus étaient ouvrières bibliques. Monsieur Lenker et Monsieur Masters étaient colporteurs. Un bâtiment convenable avait été obtenu pour la mission et on avait demandé à l'Église d'Amérique d'envoyer des médecins, des infirmières et d'autres aides pour répondre aux demandes pressantes. Frère Brown et d'autres répondirent à cet appel. Lui et frère Robinson moururent à Karmatar, au Bengale, en Inde, le dernier jour de décembre 1899. Hawaï et les îles Sandwich. En 1884, Monsieur Larue et Henry Scott sont allés à leurs frais comme missionnaires à Hawaï. Ils ont commencé leur travail en faisant du travail missionnaire personnel et en vendant des livres. Cela éveilla un tel intérêt sur l'île que la Conférence générale, en novembre 1885, a voté que frère William Ely aille la saison suivante à Hawaï pour y travailler et que la Fédération de la Californie soit priée de prêter une tente à cet effet. Ainsi équipés, frère Ely et ceux qui étaient déjà sur l'île dirigèrent une rencontre sous la tente au cours de l'été 1886. Comme résultat de cet effort, un certain nombre de personnes acceptèrent le message. Monsieur Larue est resté à Honolulu jusqu'en 1889, puis il mit les voiles pour Hong Kong, en Chine. Le travail en faveur des Chinois d'Hawaï. Mais peu de travail pastoral a été fait sur l'île jusqu'à la conférence générale convoquée au mois de mars 1895, date à laquelle on a voté que frère Gates et sa femme, et monsieur et madame Brown comme enseignants pour les Chinois, iraient à Honolulu pour s'engager dans le travail missionnaire. Le travail d'enseignement commença aussitôt et frère Gates, bien que de santé faible, a fait ce qu'il pouvait pour faire avancer l'œuvre. Un médecin et des infirmiers suivirent les missionnaires, et le travail dans cette ligne du message fut bien commencé. Résumé des missions au 1er janvier 1903. Le rapport du secrétaire du Foreign Missionary, missionnaire étranger, donné le 31 décembre 1902, présente le travail du message fait à l'extérieur des États-Unis comme suit. L'Union australienne, composée des fédérations de Victoria, de New South Wales, de Nouvelle-Zélande, du Queensland, d'Australie du Sud, de Tasmanie et d'Australie occidentale. La Conférence générale européenne, composée de l'Union allemande, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne du Sud, de la Belgique flamande et hollandaise, de l'Autriche-Hongrie, des États des Balkans, de la Suisse allemande, de la Russie du Sud, de la Russie du Nord et de la Russie centrale. L'Union scandinave, composée du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande. L'Union britannique, comprenant l'Angleterre du Nord, l'Angleterre du Sud, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. L'Union latine française, comprenant la France, la Suisse française et l'Italie. La mission orientale, comprenant l'Égypte, la Syrie et la Turquie. L'Union d'Afrique du Sud, composée de la colonie du Cap, du Natal Transvaal, du Basutoland et du Matabeleland. Divers, les Bermudes, le Brésil, les Guyanes britanniques et néerlandaises, l'Amérique centrale sud, la Chine, les Fidji, l'Inde, la Jamaïque, le Japon, les Petites Antilles, le Mexique, le Nyasaland, Pitcairn, Porto Rico, River Plate, Rarotonga, Samoa, les îles de la Société, Sumatra, Tonga, les îles de la Trinité, la côte ouest Amérique du Sud et la côte ouest Afrique. Le nombre total de travailleurs actifs de ces différents champs, incluant les ministres consacrés, les ministres licenciés, les ouvriers bibliques et les colporteurs, est de 754 personnes. Point stratégique établi. De ces brèves déclarations concernant nos missions, nous pouvons dire, comme l'a fait le secrétaire de la mission à l'étranger en 1896, avec ces positions stratégiques occupées aujourd'hui par le message dans presque toutes les parties du monde, Dieu, par sa puissance infinie, peut accomplir un grand et puissant travail dans un délai très court. Il va rapidement terminer son travail dans la justice.